à la directrice de la Fondation, Rilke. Mesdames et messieurs, dans la configuration du Valais épiscopal des XIIe et XIIIe siècles, les tours ou maisons fortes faisaient partie intégrante de nombreux sites au cœur des localités ou à leurs abords. Elles servaient de demeure à ceux qu'on a qualifiés de noblesse campagnarde. L'abbé Hans Anton von Rothen parlait, lui, de noblesse de village, traduit de l'allemand. Sans être à proprement parler maître du lieu, ils y disposaient de fiefs qu'ils tenaient de l'évêque de Sion, comte et préfet du Valais. Sous l'aspect architectural, Musot s'inscrit dans la même typologie que nombre de ces bâtisses conservées dans le Valais central et dans le Haut-Valais, où la diversité de leurs dimensions ne trahit pas forcément l'importance de leurs bâtisseurs. Le domaine qui nous intéresse est exclusivement celui du Valais épiscopal, c'est-à-dire de l'État où l'évêque est en même temps comte et préfet, c'est-à-dire à partir de Sion et jusqu'à Conches, jusqu'aux sources du Rhône. La partie occidentale entre Sion et Martigny, qui d'abord était épiscopale, est devenue savoyarde au cours du XIIIe siècle et s'est confirmée savoyarde au XIVe, avant de retourner à la fin du XVe dans le giron épiscopal, tandis que le Chablais, la région de Saint-Maurice et de Monthey, était déjà depuis longtemps tombé dans l'escarcelle des Savoies. Nous allons d'abord passer en revue quelques exemples de ces maisons ou tours fortes, souvent qualifiées un peu pompeusement du terme générique de château, dès le retour en grâce du Moyen-Âge au cours du XIXe siècle. Leur place n'est pas moindre dans la carte des châteaux, ruines et autres manoirs associés, que je viens de vous montrer d'ailleurs, la carte publiée dans l'ouvrage de Blondel et Donnet de 1963, Château du Valais, ouvrage composé pour l'essentiel de reprises d'articles précédemment édités dans le bulletin Valaisia, créé justement par André Donnet en 1946, notamment pour offrir à l'archéologie des pages que les annales valaisannes de la Société d'histoire du Valais roman refusaient alors de lui ouvrir. S'il est un endroit représentatif de Rilke en Valais, c'est bien la colline du château de Rarogne avec son église, récupération d'une vaste demeure seigneuriale, celle des majors, officiers locaux de l'évêque. C'est au pied de ce sanctuaire qu'il avait élu sépulture, Rilke. Comment résister à ce stade à l'envie de vous lire quelques-unes des lignes qu'un autre étranger établi dans ce pays depuis le début du XXe siècle a écrites en 1927 à la suite d'une visite effectuée 4 mois à peine après le décès du poète, avant que ces lieux ne devinssent l'objet d'un véritable pèlerinage. En guise d'épilogue à ces heures valaisannes, recueil publié en 1931 de textes parus auparavant dans différentes revues et réédité en 2014 sous format poche par les soins de Bernard Vider chez Infolio, Edmond Bi, car c'est de lui qu'il s'agit, écrit « Nous avons traversé le cimetière où dorment les villageois, les hobereaux de ce bourg au nom dont toute l'histoire est pleine. Mais Rainer Maria Rilke, cet aristocrate de la pensée, les paysans ne l'ont tout de même pas voulu avec leur mort. L'étranger occupe une place au sud de l'église. Seul, à l'écart, face au soleil de midi, dominant tout un monde alpestre, enchappé de neige bleue, avec à ses pieds le champ sauvage et fruste du fleuve méridional. Des cyprès, hauts de 3 pouces, se dessèchent dans un terreau calciné, mais le tertre est jonché de violettes encore fraîches. Quelques mains fidèles s'obstinent à fleurir la tombe de celui qui savait si bien aimer. » La contrée de Sierre, soit le groupement des communautés partant de Sierre, anciennement Plancière, et s'étendant jusqu'à Randonne, et en passant par Verras, Miège, Ventone et Molas, est particulièrement riche en tours médiévales, conservées plus ou moins bien, alors que subsistent seulement des vestiges ou des ruines, des châteaux proprement dits de la région. Premier passage à Musot, donc, au gré du paysage saisi en 1865 par le Ballois Émile Vic, muni non d'un appareil photographique, comme déjà tant de pionniers alors, mais d'une caméra Lucida, instrument dont se servaient déjà les plus grands vedutistes italiens du XVIIIe siècle. Vous avez déjà pu remarquer les caractéristiques de ce bâtiment. Je parle de Musotte qui est ici donc au premier plan. Simple plan rectangulaire et non carré comme la tour de Rarogne, une poterne élevée pour seul accès du côté sud, des baies parcimonieusement réparties sans souci de composition, exception faite des ouvertures postérieures à la construction proprement dite, des latrines et des conduites cheminées en surplomb, et surtout, un toit en bâtière, soit à deux pans et confiné par deux pignons à redans, ainsi qu'on nomme ces espèces de marches qui articulent les dix pignons. Mais cet élément si caractéristique n'est pas, lui non plus, garanti d'origine, c'est-à-dire qu'il peut avoir été aménagé dans une étape ultérieure. Et on en trouve jusqu'au XVe siècle dans des constructions de conception encore proches voisines de celles des XIIe et XIIIe. Vous voyez ici donc Musotte, au centre de du dessin, vous avez la tour incendiée dont on va parler, la tour incendiée, et puis la tour proprement parlée, aujourd'hui appelée château de Ventône. On voit également, légèrement en retrait ici à côté, si on veut, de Musotte, la fameuse chapelle. Nous y reviendrons, pour l'instant, nous nous éloignons quelques instants de Musotte. Ventône est spécialement bien doté. Deux tours, une parmi les plus grandes et l'autre d'un gabarit comparable à celui de Musotte, toutes deux élevées et longtemps en main de la famille éponyme, la famille de Ventône. Même si le premier détenteur d'une partie au moins de la grande tour est attesté à la fin du XIIIe siècle, le mode de construire de quelques éléments d'architecture conservés renvoie plutôt au XIIe. Or, c'est au début de ce siècle-ci que plusieurs membres de la famille de Ventône se distinguent, notamment Vilencus de Ventône, qui offrira au chapitre une magnifique Bible enluminée, toujours conservée dans la bibliothèque, dans les archives du chapitre de la cathédrale de Sion. On est dès lors enclin à rapprocher la construction de la grande tour forte des Ventônes de l'époque brillante de cette famille, c'est-à-dire le XIIe siècle. Lors de son examen de ce qu'on appelle aujourd'hui, de ce qu'on appelle depuis longtemps déjà le château, Blondel pensait avoir discerné un changement de structure des maçonneries dans les pignons à redans qui aurait succédé au XVe siècle seulement à un toit en pavillon, donc à quatre pans. Ces observations n'ont pas été confirmées lors de la restauration générale dont le bâtiment a fait l'objet en 1976, bien que, il faut l'ajouter, le bâtiment n'ait pas fait alors l'objet d'une recherche d'investigation de caractère archéologique. La petite tour convertie en cure lors du transfert paroissial de Musotte à Ventône en 1672 remontait elle aussi à l'initiative des Ventônes. On y distingue encore la poterne d'origine, donc l'accès surélevé par une petite porte, généralement en ce qui se signale par la forme en arc de son linteau, de sa partie supérieure. Mais les redans des pignons, pratiquement invisibles avant la restauration des années 1980, paraissent avoir été quelque peu forcés par l'architecte en charge du chantier de restauration. Plus modeste, la tour, ou ce qu'il reste d'un bâtiment de la même veine, à gauche, a été ensuite intégrée à un ensemble d'édifices de la famille Mondressi. Malgré sa similitude apparente avec le soi-disant château, la tour incendiée en 1852 doit bien remonter, comme l'avait déjà remarqué Louis Blondel, au XVe siècle et non au XIIe ou au XIIIe. Aucune trace sur les parois extérieures des murs, de baies, de cheminées, ni de latrines trahissant une construction antérieure à la fin du Moyen-Âge, soit à celle du gothique. Par contre, on distingue sur les trois dessins qui nous sont parvenus des jours d'après, dont deux présentés ici. Donc sur les trois dessins qui nous sont parvenus des jours d'après l'incendie, dont deux présentés ici, l'existence d'une enceinte, d'une chemise entourant de sa maçonnerie la tour forte, caractéristique dont on a peu de témoins, peu de traces au XIIe et XIIIe siècle, et qui pourtant, dans certains cas, a bien dû exister. En 1880, un édifice massif, rappelant par ses grandes ouvertures en arc plein cintre le Rundbogenstil germanique, évocateur du début du XIXe siècle de la Renaissance, évocateur de la Renaissance du XIXe siècle, de la Renaissance italienne au début du XIXe siècle en Allemagne. L'auteur des plans était un jésuite jurassien, homme de confiance de l'évêque hyper-ultramontain Pierre-Joseph de Preux. Grimisua, vous n'aviez pas vu encore le nouveau bâtiment. Alors je passe à Grimisua. Grimisua, tour au sujet de laquelle les avis, pour autant que ce terme soit approprié en la matière, divergent ou en tout cas ne convergent pas vraiment. Le lieu relevant des seigneurs d'Ayen, ils en auraient confié l'administration, ou Maître Ali, à une famille locale qui prit le nom de Grimisua. En 1267, cependant, le doyen de Sion, Aymon de Ventaune, la légua au chapitre de la cathédrale. Les Dayens continuant toutefois à exercer leur juridiction sur Grimisua jusqu'en 1336. Allez comprendre, ce n'est pas si évident quand vous lisez certains historiens. L'abbé Rameau, auteur peu autorisé, même s'il s'appuie pour ainsi dire exclusivement sur les documents publiés par Gremaud, ecclésiastique d'une autre trempe, auquel on doit les 8 volumes des documents sur l'histoire du Valais, publié les 5 premiers de son vivant, les derniers dans les années qui ont suivi au cours des 2e, 3e quart du 19e siècle. Rameau voit la noble famille des Christa, connue dès 1270, résider dans cette tour. Si tel était vraiment le cas, on nous avance que ceux-ci l'auraient tenu en fief, soit de l'évêque, soit des Dayens et de leurs successeurs, les Latour-Châtillon, rachetés par la communauté en 1580. La maîtralie ou châtellenie, ou maîtralie épiscopale, était alors détenue par les Schnieder, qui auraient cédé la tour en 1502 déjà. Pas tout simple. Comme à Ventaune, elle aurait dès lors été affectée à la cure, et à l'instar de Ventaune, elle l'était encore ou elle l'était encore il y a peu. Après les ravages des guerres civiles de la fin du XIVe et du XVe siècle, où la tour de Grimisua a passablement souffert, elle a non seulement été réparée, mais façade remontée au-dessus du deuxième étage et l'ensemble couvert d'un toit de pan entre les incontournables pignons à redans. Toutes les baies ont en outre été modifiées ultérieurement. L'effet d'ensemble, au premier coup d'œil en tout cas, demeure conforme à la fameuse typologie des tours ou maisons fortes des XIIe et XIIIe siècles. Pour sa valeur en quelque sorte exemplaire, ce spécimen presque voisin du berceau de la tour à pignon qu'est la noble contrée valait bien le détour. Il n'en ira pas de même avec Stalden, siège des dynastes locaux, dont l'appellation varie, au point que Vic en a rajouté une dans sa légende, Incuris deem das, c'est ce que tout le monde écrit depuis la fin du XIXe siècle. Vic en a rajouté une dans la légende de son dessin en parlant des seigneurs de Stella. Une évocation plus fidèle à l'image d'origine de la tour est celle de Vic, aujourd'hui cette tour dotée d'annexes plutôt malvenues. On en juge plus facilement si on se reporte à la réédition de l'ouvrage de Blondel et Donnet en 1982, illustré avec bonheur, mais témoignant aussi de beaucoup de dégâts survenus dans notre temps, illustré avec bonheur par des photographies de Jean-Marc Binaire. Blondel rapprochait cette tour, celle de Stalden, du château des Super-Saxos de Nathers, daté du XIIIe siècle. Ici aussi, vous voyez que la présence des latrines est au fond presque une signature pour l'époque du Moyen-Âge florissant, donc du Hochmittelalter des XIIe, XIIIe siècles, plutôt que de la fin du Moyen-Âge. Alors, volet suivant, et second et dernier, donc, de cet exposé, le retour à Musotte. avec passage obligé de Rilke devant, et dans la tour de Goubin, devenu un des monuments symboles de Sierre après sa rénovation, comme la tour des Vidome, par Elit Courton vers 1850. Et ici, comme hors d'œuvre, une photo, ou plutôt deux, qui, grâce aux lunettes alors spécialement conçues à cet effet, donnait l'impression de profondeur par la juxtaposition des plans de vue respectifs. La photo porte la signature photographie de Louis de Courton. C'est également Louis de Courton, vraisemblablement fils de Raphaël, propriétaire et habitant de cette maison-ci, à l'époque de Vic, qui dit avoir séjourné chez son ami Raphaël de Courton, ancien colonel au service pontifical. À ce Louis de Courton qu'on doit une photo la plus ancienne connue, précisément de la maison de Courton. Ici donc cette vue qui va nous amener au premier, émerveillement de Rilke à Sierre. Considéré comme propriété d'Isabelle Albi, dame de la Bâtie de Grange en 1297, dans tous les textes qu'il évoque, Goubinck n'est peut-être pas aussi ancienne, car le texte invoqué ne fait mention que de terre à cet endroit, sans mention de bâtiment. Il n'empêche que les Albi, héritiers d'une partie de l'importante seigneurie de Grange, la tour passa au début du XVe siècle par Perrette de la Bâtie à son mari Jean de Chevron, puis au Platéa, au Montet et de 1724 à 1874 au Courton. Le dessin de Ritz présente des murailles dont on retrouve certes quelques vestiges dans l'édifice rénové au milieu du 19e siècle, mais sans garantie de correspondance entre ce dernier et la tour d'origine. La photographie de Gallerini permet de jauger l'ampleur des travaux accomplis pour faire d'une ruine une sorte de pavillon où l'on se rendait le dimanche pour s'y réunir aussi souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a le même point de vue pour les deux vues. Ritz nous a également, gratifié de vues d'autres bâtiments transformés, réhabilités si on veut, rénovés, et c'est ce qui est le plus précieux chez lui. Pour la valeur documentaire, les dessins de Vic avec l'assistance de sa caméra Lucida sont supérieurs. Mais on a chez Ritz souvent une main artistique évidemment plus vive, encore que certains de ses dessins, on va le voir tout à l'heure pour Musot, certains de ses dessins fussent destinés à être transcrits en estampes, généralement en lithographie. On en revient donc inlassablement à Vic. On peut s'imaginer que l'approche des lieux n'avait pas beaucoup changé 50 ans plus tard, lorsque Rilke fut convié à la visite de la tour par son propriétaire d'alors, Pierre de Rame, lequel s'était mis en quête d'une maison pour l'écrivain désireux de s'installer, mais est-ce la juste expression à propos de Rilke, à la fin juin et au tout début de juillet 1921. Cela commença toutefois par une déconvenue, la première demeure proposée étant une très modeste maison, récente alors, qui devait ou pouvait servir à ceux qui travaillaient aux vignes voisines de la tour, vignes dont Pierre de Rame était l'administrateur pour le compte de Jean-Jacques Mercier. De celui-ci, Rilke s'était laissé dire qu'il était l'homme le plus riche de la Suisse romande et qu'il venait de se faire construire un château, entre guillemets, à Sierre. Une autre proposition n'emballait guère plus le poète. Une petite maison à côté de l'église de Villa, soit de la chapelle Saint-Ginier. Mais laquelle ? Car il en reste encore quelques-unes. Elle était, selon Rilke et Baladine qui l'accompagnaient à ce moment-là, aussi peu utilisable que celle de Coubin. Je ne parle pas du château, mais de la petite maison dont on n'a pas d'image, en tout cas pas moi, la petite image qui accompagnait le château. Entre parenthèses, les Merciers, évidemment, c'est bien connu, continuent par Denis d'exploiter, et avec bonheur, les vignes de Goubingues. Donc, Rilke s'était risqué à visiter en deux temps la petite maison que lui avait signalée Pierre de Rame. Les photos que vous avez là sous les yeux sont d'anciens tirages sur papier et bistre, mais qui nous montrent quel tour on doit accomplir pour se trouver à l'entrée du château. À noter que ce genre de tour d'escalier qu'on trouve dans d'autres bâtiments ne fait évidemment pas partie de la construction d'origine, pour autant que cette construction soit bien du XIIIe ou en tout cas du XIVe siècle. Dans beaucoup d'autres cas, on trouve ce genre d'annexes, pas très récentes, mais quand même bien postérieures à la construction. La visite de Goubin s'effectua avec son propriétaire après la première reconnaissance que Rilke avait effectuée avec Baladin. Les choses se sont passées de la manière suivante. Le mardi 28 juin, on part en train pour se rendre en Valais central. On est déjà enthousiaste. À Saint-Maurice, on se réjouit de revoir ce Valais découvert l'automne dernier. Et on a déjà jeté, on peut se dire, son dévolu dans Baladin, qui a amené Rilke en Valais que lui-même. On a déjà jeté son dévolu sur le Valais central, la région de Sion ou celle de Sierre. Ayant reçu déjà quelques indications de Derame, ils se rendent à la petite maison. Ils ne passent pas l'enclos puisqu'ils craignent le chien dont on annonce la présence. Et ils rentrent assez dépités. Ils vont aussi visiter la maison de Villa. Et c'est le lendemain matin, donc le 29, qu'avec Rame, plutôt en fin de journée, parce que le matin, il retourne avec Rame voir la petite maison, et c'est la même, évidemment, la même déconvenue, cette maison aussi peu utilisable que celle de Villa. Donc c'est en fin de journée que se passe la merveille, celle qui est, dont je rapporte une ligne ici. Rilke décrit les étages successifs qu'on doit franchir à Goubin, trois étages avec trois petits espaces, ils sont pas tous à des étages successifs, plein de vieux meubles et tout d'un coup une salle, et il dit que il va falloir que vous la voyiez aussi, écrit-il à Nanny Wunderlich, sa confidente, dans cette longue lettre du 4 juillet où il récapitule toute la semaine précédente. Et ils redescendent, après avoir pris le thé, après avoir aussi bu de la malvoisie, ils redescendent à l'hôtel, ils sont en ce moment-là au Bellevue, puisque le bord est fermé et qu'on le leur a ouvert, mais être seul dans le bord à cette saison-là n'est pas très drôle. Ils sont donc plutôt bien logés au Bellevue, mais une certaine nostalgie, une certaine, je dirais presque une certaine dépression s'instaure dans la soirée, plus tard, et le matin tôt, avant, le 29 au matin, la fameuse découverte de la photo de Musotte dans la vitrine du bazar coiffeur, la vitrine des rogniers. Donc la fameuse salle qui fait l'admiration de Rilke devrait être celle que vous avez ici à droite. Elle est là dans l'état où l'a photographié Paris, photographe lausannois, qui a laissé une documentation considérable en 1946, qui lui avait été commandée précisément à l'attention et à l'intention plutôt de la future rédaction des monuments d'art et d'histoire du Valais, qui n'a démarré que pratiquement 20 ans plus tard avec mon collègue Walter Ruppen dans la vallée de Conches. Bref, c'est cette découverte que Rilke qualifie d'ailleurs d'une des plus grandes merveilles que lui a réservé la Suisse. Je crois que c'est le terme qu'il utilise en allemand, bien sûr. Oui. une des plus belles surprises que m'ait réservée la Suisse. On était comme enchantés, Furtaubert, lors de la découverte de cette salle. Mais évidemment, une fois la salle vue, une fois le thé pris, une fois la malvoisie consommée, retour aux belles vues, le lendemain matin, c'est moins joyeux. Quand se produit le miracle, c'est-à-dire la découverte de la photographie dans le bazar coiffeur des Rognier, les propriétaires de Musotte à ce moment-là, et tout de suite, Rilke s'en inquiète, et lors d'un coup de téléphone avec Pierre de Rame, il lui dit, au grand étonnement de celui-ci, au grand étonnement de Rame, il lui dit « tour contre tour ». À partir de là, s'enclenche le processus qui mènera à la location, puis à l'achat de Musotte. Alors, je vous montre les plus anciennes illustrations que j'en connais. D'une part, Vic, un détail de ce qu'on a vu tout à l'heure. D'autre part, Ritz. Alors, l'antériorité de Ritz paraît assurée par, plutôt la postériorité de Ritz par rapport à Vic est en quelque sorte signée par la présence du petit escalier de pierre qui mène à la poterne. Vous voyez, la poterne pas très élevée, mais c'est également comme ça, ça se passe également de cette façon-là à la grande tour de Ventone, cette petite poterne donc du côté sud. L'escalier que Vic n'a pas vu. Parfois, Vic, évidemment, élude aussi certaines choses. Mais il est généralement fidèle à ce que lui donne comme indication, son système de projection, qui pour être archaïque n'en est pas moins efficace. Vous avez aussi chez les deux, les annexes, les petites, on pourra dire les annexes de... confort, c'est un grand mot, qui ont été éliminés comme des verrues ultérieurement, c'est-à-dire les cheminées et les latrines du côté est, qui est celui qu'on voit le mieux dans ces dessins. Il faut dire que le destin de la tour de Musotte est mieux assuré que ne le croyait Rilke lui-même, qui pensait que c'était une propriété rurale, Bauernbesitz, et que le croyait également Bi, dont on lira encore quelques lignes dans une minute ou deux, parce que cette maison qui est passée au chevron, Rilke est plus précis et moins poétique au sujet du château qu'au sujet de la chapelle, et il se fie aux renseignements qu'il a lus, probablement dans les ouvrages qu'on lui a communiqués, peut-être la fameuse statistique, elle n'était peut-être pas encore publiée, de Fuhrer, je ne suis pas sûr. Il parle d'une propriété des Blonnais, très improbable, on n'a pas de documents à ce sujet-là, des Latour Châtillon, donc d'Obergestelln. Là, c'est déjà un peu plus, il y a un peu plus de chance, mais on ne prête qu'aux riches, on leur attribue beaucoup de propriétés. Les Chevrons, et ensuite le passage par Isabelle de Chevron au De Montet, on dit aussi De Montet ou De Montéolo, mais au De Montet un peu plus tard. Les Montet, effectivement, sont encore propriétaires lorsqu'ils vendent la seigneurie de Musotte et... le reste de quelque chose qui se trouve au Bernune, au-dessus de Ventone, en 1714. En 1714 est la date de la cession de la seigneurie, une sorte de vidoma de Musotte, aux trois communes de Ventone, Verras et Randogne. Ventone et Verras constituent avec Miège le tiers du milieu de la fameuse grande contrée de Sierre à Randogne, mais Randogne par contre fait partie avec Molins le tiers supérieur. Mais ce sont ces trois-là, Ventoun, Verras et Randogne, sans Molins, qui acquièrent cette seigneurie avec tous ses droits. Cette seigneurie va encombrer, évidemment, non, va encombrer personne. À la Révolution, elle va être suspendue, la juridiction va cesser. Mais par contre, la tour reste un peu sur les bras, semble-t-il, de Verras, puisque c'est le châtelain, le fils du châtelain de Verras. Le châtelain, c'est le juge, en quelque sorte aussi le président après la Révolution. En 1830, c'est le fils du châtelain, Antoine Roux, de Verras, qui offre une petite somme pour cette tour. On hésite à la lui vendre, on consulte les différentes instances impliquées, et on va voir cette tour passer dans plusieurs mains. Il semble que ce soit une sorte de pomme de terre chaude dont on cherche toujours à se défaire tout au long du XIXe siècle. On trouve d'autres noms encore, d'autres personnes. Les Rogniers, eux, deviennent acquéreurs en 1904, et c'est donc eux qui vont finalement vendre à Werner Reinhardt la tour qu'il a acquise pour la mettre à disposition de Rilke. Je vous donne un extrait de l'acte de vente, aimablement transmis par le registre foncier, de 1922. Monsieur Werner Reinhardt, fils de Theodor Reinhardt, industriel domicilié à Winterthur, canton de Zurich, Villa Richtenberg, ici représenté par Monsieur Rainer Maria Rilke, fils de Joseph Rilke, écrivain originaire de Prague, bohème, actuellement domicilié au château de Musotte, derrière la commune de Verras, vertu de procuration du 12 mai 1922, qui restera annexé à la minute. Les immeubles dont description suit, tous situés derrière la commune de Verras et inscrits au registre d'impôts de la dite commune, selon extrait produit, savoir, article 2559, folio 1, numéro 155, Musotte d'en haut, château tour, comprenant un corps principal composé de caves, de deux étages et d'un galetas mansardé, ainsi que d'une annexe attenante composée d'une écurie et d'une cuisine au-dessus, avec escalier et galerie. Suivent encore d'autres articles, et en point 6, tous les droits à la source jaillissant sur ce dernier immeuble, avec les stations existantes, tous les immeubles présentement vendus proviennent de la vendresse, moitié par héritage de son père antérieur à 1912, mort de, je ne sais plus son prénom, Joseph Rognier, je crois, et moitié par acquisition de son frère Gabriel, etc. Lesquels les tenaient également de son père, Paul Rognier, par héritage. Tous ces immeubles ont été acquis par Rognier de divers propriétaires. Le corps de bâtiment provient des Oirs de Joseph Métraillé à Ventoun. Donc on restait dans cette orbite-là. Le temps passe et il s'agit de songer à conclure. Je vous ai réuni là deux photographies et deux cartes postales. L'une des frères Julien, qui ont surtout produit des images dans les années 1905 à 10, celle d'en haut à gauche. En bas à droite, une qui provient de l'imprimerie photogravure de Genève, qui ne manque pas de signaler aussi la présence, comme on l'a vu déjà chez Vic, de la tour de Ventoun, du château de Ventoun. En bas à gauche, un détail, une vue au téléobjectif, donc pas très nette, de Paris, effectué d'assez loin, et en haut à droite, une photo aimablement mise à disposition par Madame Duvillard, mais qui a été fournie par la médiathèque Valais-Martigny, qui montre Edmond Bi devant le chalet, alors devant Musotte. On n'est pas habitué à associer Edmond Bi à Rilke. Je dois dire, je n'ai pas eu l'assiduité de consulter, ce qui est très facile aujourd'hui, tous les mots-clés, les noms-clés intéressants de la correspondance indexée dans ce sens-là, indexée par précisément la Fondation et ses collaborateurs. Je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu l'assiduité de regarder cela. Peut-être que Bille apparaît plusieurs fois. Dans une de ses lettres, mais c'est au sujet de la chapelle de Musotte, Rilke disait ne pas beaucoup apprécier la compagnie, une compagnie du côté de Verrace, dont on devine entre les lettres qu'il s'agit de Holzhommer, mais de Bi apparemment pas question. Par contre, Bi lui écrit, encore une fois, dans ses fameuses réflexions sur deux tombes, celle d'avril 1927, mais probablement rédigée plus tard, puisqu'il parle du décès une année avant de Rilke, réflexion sur deux tombes, l'autre étant celle du peintre Édouard Valette, mort lui en 1929 à 53 ans, Rilke c'était à 51 ans. Encore ces quelques mots de Bi à propos de Rilke. Il était des nôtres depuis près de 4 ans. Il aimait ce pays qui lui rappelait l'Espagne. Ce pays arrêté à mi-chemin entre la terre et les cieux, sortait d'une citation de Rilke, bien fait à la taille de son génie et de sa sensibilité. Sous ses doigts merveilleux, la petite lyre valaisanne que, selon l'expression du poète, le pays lui avait prêtée, a connu des résonances insoupçonnées. Il a su tirer de ce fruste instrument des sons aux harmonies rares. On n'en avait jamais entendu de pareil. Il a vécu ses poèmes avec intensité avant de les écrire. Le pays entrait chez lui par les fenêtres ouvertes, le prenait à la gorge dès qu'il avait passé le seuil de son logis. Il avait vu sur la longue vallée aux aspects tragiques, pouvait errer sur ces collines qui sentent encore la genèse, encore une citation de Rilke, et sa maison était une de ces tours qui insistent et tristement montrent leurs ombres anciennes. Je vous ai épargné bien des qualificatifs de Rilke sur Musotte, où il parle à un moment donné de se faire appeler, il le dit avec une auto-ironie évidente, se fait appeler le monsieur de Musotte ou châtelain de Musotte, où il parle de son musottisme. Et voici les derniers mots que j'emprunte à Bi. Une humble tour, jaune comme une molaire carrée, étroite et basse, un laissé pour compte de quelques hobereaux paysans, pas mal pour une maison qui a passé par tant de mains nobles avant effectivement d'échoir à des, je dirais, propriétaires qui ont au moins eu le mérite de la conserver et de l'entretenir, ce dont Rilke se félicite aussi, sans en abîmer la structure. Il le dit, même Rogner ou d'autres ont travaillé à l'entretenir, à la maintenir en état, sans nuire à son, on dira aujourd'hui, à sa substance historique. Évidemment que si on n'avait pas nui à la substance historique, on n'aurait pas non plus maintenant des tours comme celle des Vidome à Sierre ou de Goubingue. Je continue, une humble tour oubliée là, dans son champ et sa vigne, entre une chapelle pour poupée, là encore, merci, quand on sait que l'intérêt Rilke lui vouait, essayant même de la sauver, enfin avec les moyens dont il disposait, et un peuplier au tronc vaste. Je vous remercie de votre attention.